L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-François Roth, bonjour.
Bonjour Christophe.
Nous recevons aujourd'hui Patrice de la Salle de la Compagnie de Jésus pour son livre « Dieu l'étranger, parcours biblique » publié en ce moment aux éditions jésuites. Patrice de la Salle, bonjour.
Bonjour.
Alors, Dieu l'étranger, quand j'en parle dans les couloirs de la radio, on dit « Ah bah oui, c'est tout à fait important aujourd'hui avec les migrants de parler de ça, ça n'a rien à voir. » Nous avons un livre de haute tenue spirituelle, je dirais peut-être théologique, mais j'ai peur de faire grincer ou que les gens se disent « Ah, c'est trop compliqué ». Non, parce que vous avez une écriture extrêmement fluide, Patrice de la Salle, et que votre livre se lit comme un roman. Alors, le pape François dit toujours qu'il faut aller à la périphérie. On sent que vous avez pris un peu ce conseil comme une injonction, mais au-delà de tout ça, l'étranger comme un chemin de plénitude pour l'homme et d'authentique révélation de Dieu en humanité, écrivez-vous. Et la première phrase de votre livre est formidable, « Dieu n'a pas créé un monde clos ». Donc on va sortir de l'entre-soi, c'est bien ça que vous voulez nous dire ?
Alors déjà, il faut rectifier un tout petit peu la première phrase, c'est « Dieu n'a pas créé un peuple clos et non pas un monde clos ». Voilà, donc un peuple clos. Et oui, alors effectivement, tout d'abord, il faut rectifier, ça n'est pas un manifeste sociopolitique,
absolument.
Ni en faveur ni contre l'étranger, ni les questions de population, ni les questions de loi sur l'immigration, etc. J'ai quand même voulu ce titre « Dieu, virgule, l'étranger » avec toutes les connotations que cela peut représenter, c'est-à-dire d'abord dire que Dieu n'est pas si familier que ça à l'homme. Et je crois que nous, les prêtres, les clercs, si vous voulez, notre métier, si l'on peut dire, est de parler de Dieu comme si on le connaissait depuis toujours, comme s'il nous était parfaitement familier, et nous aussi, vis-à-vis de lui. Et je crois qu'on mésestime cette dimension d'étrangèreté, excusez ce néologisme que je mets quand même dans mon texte. Je crois que Dieu reste toujours quelqu'un, un mystère, comme dit Grégoire de Nazianze, Dieu l'au-delà de tout.
Voilà. C'est pas l'ami avec une dimension anthropomorphique.
C'est d'abord,
c'est Dieu.
C'est Dieu, c'est le grand inconnu, c'est le Deus absconditus, comme on dit dans les bons milieux théologiques, le Dieu caché, qui se révèle néanmoins, qui est un mystère, non pas au sens de l'inconnaissable, mais qui nous fait entrer dans la connaissance de ce qu'il est et de ce qu'il vit avec l'humanité, à condition que l'homme s'y engage, évidemment, de lui-même, en particulier par la foi.
Et alors, même Jésus est étranger, parce que tout le monde se pose la question, qui est-il ? Vous citez, il fait des miracles au nom de Belzéboul, mais c'est le fils d'un charpentier, mais non, mais on ne le connaît pas bien. Et alors, tout le monde se pose la question, alors, lorsqu'il démarre sa vraie vie, il parle d'Élie. Et là, on veut le lapider presque, enfin, parce que pour qui je me prends, mais parce qu'on ne le connaît pas.
C'est vrai que c'est un peu une surprise quand on, après votre titre, Dieu, virgule, l'étranger, on commence Jésus à Nazareth et on se dit, bon, ah, tiens, comment ça se relie avec cette thématique? C'est très intéressant.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, là aussi, je crois que, bon, Jésus, on en parle, nous, les prêtres, on en parle tous les dimanches à la messe, etc. Et on fait nombre de conférences, de leçons bibliques, comme si, encore une fois, c'était notre ami fidèle, familier, notre copain de tous les jours. Je crois que Jésus, alors j'ai voulu commencer par Nazareth, même si après je fais un peu des retours en arrière, si on peut dire, vers l'Ancien Testament, le Premier Testament, mais pour bien montrer qu'à Nazareth même, c'est-à-dire le lieu où il a quand même grandi, il se présente comme un inconnu, comme un étranger, si vous voulez, à la conception immédiate qu'on peut avoir du fils de Joseph. Voilà.
Je vous cite Patrice de La Salle. Au-delà ou à l'intérieur même du questionnement juste sur l'identité de Jésus, c'est bien cette nouvelle naissance de type spirituel qui est annoncée et proposée par l'adhésion à sa personne. Cela n'a pas été saisi alors que tout le cadre traditionnel religieux juif est présent. Le jour du sabbat, la synagogue, les écritures, un commentaire de grâce, etc. Jésus, si familier, est devenu étranger et dès lors a encouru l'expulsion brutale. Le credo d'Israël a été ignoré précisément dans son accomplissement. Or, dès les commencements de la révélation divine dans l'histoire des hommes, l'étranger est bien présent, enrichissant même les contours de l'appel adressé par Yahvé à ses élus. Et ça, c'est une richesse, j'ai l'impression, que vous apportez. C'est pas au-delà du questionnement du qui est qui.
Oui, et je crois que, si vous voulez, Jésus ne manifeste pas cette étrangèreté simplement pour le plaisir. D'abord, non. Je crois qu'il a horreur qu'on lui mette la main dessus, et déjà, pour commencer. Et d'autre part, il veut effectivement se présenter, sans doute sous une figure humaine, incarnée, fils de Joseph, de Marie, comme ça sera dit dans l'Évangile, mais aussi... faire apparaître aussi cette dimension de Dieu incarné au milieu des hommes, c'est-à-dire encore une fois le tout autre, non pas pour nous écraser de son inconnaissance ou de son mystère, mais au contraire pour nous inviter à prendre son chemin de connaissance et de reconnaissance de Dieu dans notre propre vie. Je crois que tout cela est dirigé vers ses disciples d'abord, évidemment, vers ses contemporains et vers nous encore aujourd'hui qui lisons ces Écritures.
Alors, je reviens, Patrice de La Salle, sur la première phrase de votre livre « Dieu l'étranger, parcours biblique » aux éditions Jésus.
Oui, le sous-titre « Parcours biblique » est tout à fait important à souligner. Ouais. Parce que vraiment, c'est vrai, on reparcourt toute la Bible sur cette orientation.
Justement, Dieu n'a pas créé un peuple clos. Et vous dites, le début de l'histoire sainte, c'est au chapitre 12 de la Genèse, quand Yahvé dit à Abraham, tu vois là-bas, bah, tu vas jusqu'au bout.
Voilà, il y a quand même, ça a été souligné un très grand nombre de fois, en cela je n'invente rien, je n'innove rien, mais effectivement, on voit bien que ce premier démarrage de l'histoire, après les 11 premiers chapitres qui sont de la proto-histoire, donc comme on sait, voilà, et donc ce premier chapitre de l'histoire sainte au chapitre 12, c'est quand même Dieu qui appelle à sortir de chez soi, à sortir de soi et à rencontrer, en tout cas pour ce qui concerne Abraham, très vite l'étranger, je dirais, dans son aspect ethnique, c'est-à-dire aller s'égarer, s'aventurer en pays égyptien, ce qu'on ignore souvent, c'est-à-dire on pense qu'Abraham a suivi la trace, voilà, et a fondé le peuple d'Israël par la fidélité à Dieu, ce qui n'est pas faux, évidemment, mais assez vite, quand même, il est confronté à un milieu étranger et hostile avec l'Égypte qui aura évidemment une importance considérable dans l'histoire du peuple d'Israël.
C'est une mission ou, comme d'autres religions, une conquête?
Quoi donc?
Le départ d'Abraham qui va aller jusqu'en...
Alors, ce n'est pas certainement pas une conquête, puisque le pauvre Abraham va être reconduit à la frontière, piteusement, on pourrait dire... Parce que, l'Égypte s'avère comme ce lieu un peu de confusion où Abraham, craignant pour sa vie, fait passer son épouse, Sarah, pour sa sœur. Voilà, de peur que Pharaon se jette son dévolu sur Sarah.
Il la prostitue.
Et que Abraham passe par pertes et profits du grand plaisir de Pharaon. Donc, il y a une espèce de... Voilà, alors Abraham dira, c'est pas complètement ma sœur, c'est ma demi-sœur. Voilà. Alors donc c'est une demi-sœur pour une demi-vérité, quoi. Voilà. Et donc ça ne sera pas très honorable effectivement, mais comme pour ce grand personnage d'Abraham, le père des croyants, mais comme toute la Bible nous dit aussi, pas simplement les merveilles de Dieu au milieu des hommes, mais nous dit aussi les petits côtés de l'homme à reconnaître effectivement cette part d'étranger qu'il va rencontrer dès qu'il sort de chez soi et qu'il porte en lui-même également.
Revenons toujours sur cette histoire Dieu l'étranger, enfin cette démonstration, pardon, Dieu l'étranger, parcours biblique, Patrice de La Salle. Vous écrivez, la saga avec l'Égypte est loin d'avoir livré tout son sens. De fait, entre Israël et l'Égypte, on va assister à un renversement des contraires.
Oui.
Et ça, je ne l'avais jamais lu avant de vous lire.
Oui, on pense toujours que l'Égypte, c'est le pays épouvantable, c'est l'ennemi héréditaire, l'ennemi de toujours d'Israël. Or, le peuple d'Israël, il faut quand même bien se rendre compte de cela, a trouvé sa pleine puissance, son plein développement, sa pleine croissance, d'abord en Égypte. Quand le petit clan de Jacob, 70 personnes, mettons, descend en Égypte pour aller retrouver donc Joseph, le fils perdu, qui est retrouvé, là aussi, toute une métaphore biblique, évidemment. Ensuite, 400 ans après, ils vont sortir avec 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants, les chariots, les troupeaux énormes. C'est un peuple innombrable que nul ne saurait dénombrer.
On souligne rarement les 400 ans de la croissance, de la constitution finalement du peuple, avant qu'il ne sorte d'Égypte, pendant 400 ans, il vit en Égypte.
Oui, tout à fait. Et Joseph est un pur produit de l'Égypte, si vous voulez. Il aura passé quasiment tout. Joseph, donc le fils de Jacob, attention, précisons bien pour nos auditeurs, non pas Joseph, le père adoptif de Jésus. Joseph, le fils de Jacob, donc vraiment le bien-aimé, aura passé quasiment toute sa vie en Égypte. Et Moïse aura passé une grande partie de sa vie en Égypte.
Moïse est élevé à la cour du Pharaon, il est élevé par la fille du Pharaon, Moïse. On le dit peut-être un petit peu plus que le voyage d'Abraham en Égypte qu'on a un peu oublié, mais la genèse de Moïse, la jeunesse et la jeunesse de Moïse, c'est l'Égypte.
Voilà, et il faut souligner, donc tout à fait dans le sens de votre très juste remarque, qu'avec Jésus, il y a un renversement aussi considérable qui se fait, puisque dès l'enfance, les premiers jours après la naissance de Jésus, Jésus va trouver en Égypte une terre secourable, puisqu'il va fuir avec évidemment Marie et Joseph en Égypte, et là il va y trouver refuge et sécurité, alors que Israël devient le territoire qui veut la mort de l'enfant. On leur dire déjà un peu en avance la mort de Dieu, si vous voulez.
Oui, alors donc c'est ce renversement que je fais, et justement, je n'ai pas lu ça ailleurs que dans votre livre, Patrice de la Salle, Dieu l'étranger, parcours biblique aux éditions jésuites. C'est que
Pharaon est très généreux à l'égard de Moïse, qui l'a trompé. Il le renvoie pas du tout, il le punit pas, il le renvoie toutes ses richesses et tout.
Abraham, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous soulignez, Jean-François Roth, il y avait 4 siècles quand même qu'ils ont passé en Égypte. Ils sont partis, comme vous le dites, Patrice de la Salle, ils étaient 80, ils repartent à 600 000 et ils se sont pas mélangés avec la population autochtone. Vraisemblablement pas.
Non, probablement pas. Encore qu'on pense que cette vue d'un peuple un peu unifié, donc avec les fameuses 12 tribus d'Israël qui sort comme un seul homme, qui va traverser la mer Rouge, etc. Bon, c'est une vue a posteriori quand même. Et je dis ça aussi dans mon livre, c'est-à-dire que à l'époque, très probablement, il y avait des clans, il y avait des tribus, il y avait des groupes d'Israélites, si vous voulez, répartis en Égypte. Cette vue qui a été certainement influencée aussi par la relecture un peu deutéronomiste, si vous voulez, de toute cette histoire, et en particulier après l'exil, c'est-à-dire l'autre drame, effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, tout ça a été un peu rediffusé et recomposé, probablement.
Alors, autre étrangèreté, c'est la Samarie, qui est en plein milieu d'Israël, Galilée, Samarie, Judée, et au centre, c'est compliqué.
Ben oui, c'est compliqué. Donc ça,
et là encore, c'est l'étranger.
C'est très bien décrit dans les évangiles, si vous voulez, avec des figures très, très, très emblématiques de Samaritains et de Samaritaines. Donc, et où, effectivement, les évangiles présentent pourtant cette région un peu troublée de par, là aussi, l'histoire ancienne, comme aussi des gens qui espèrent, qui croient et qui aiment, si vous voulez, et qui essayent de tendre aussi vers la connaissance du vrai Dieu. Voilà. Et donc, je crois, il faut relire évidemment le chapitre 4 de Saint Jean avec ce très beau dialogue de Jésus avec la Samaritaine, ou bien toutes les relations avec les Samaritains, et l'exemple, qui va rester dans l'histoire de l'humanité, du bon Samaritain, comme étant celui qui a tout à fait incarné les deux premiers commandements que Jésus rappelle, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je vous cite Patrice de La Salle, il n'est pas fortuit d'évoquer ce contexte divisé entre juifs se disant justes et samaritains considérés hérétiques. Car ce qui advient ainsi en Israël, de par le témoignage vécu de Jésus, est emblématique du dessein de salut apporté par lui au nom de Dieu pour tout un chacun, où qu'il soit, d'où qu'il vienne. Cette universalité en marche va se manifester dès lors en d'autres catégories mises religieusement et donc socialement à l'écart en Israël.
Oui, c'est ça.
Et donc on a au sein même d'Israël, on a cette terre d'étrangeté, c'est-à-dire que qui peut être sa vocation ?
Oui, bah, c'est-à-dire là aussi, il faut se démarquer un peu d'une vue un peu globale et un peu rapide, si vous voulez, de l'Israël de l'époque de Jésus, puisque bon, l'Israël, on pourrait dire pur et dur, fidèle, c'était la Judée, donc autour de Jérusalem, donc plutôt au sud, voilà, avec Bethléem qui est donc au sud de Jérusalem. Un peu plus au nord, c'est donc la Samarie, ce territoire donc un peu confus sur le plan religieux, et encore plus au nord, c'est donc la Galilée, Galilée des nations, que en particulier l'évangéliste saint Matthieu, se plaît à traduire comme étant une région traversée par des courants divers et où Jésus va passer quand même les 30 premières années de sa vie. Donc Jésus n'est pas du tout issu du milieu judéen avec ce qui se représente traditionnellement dans l'Israël de l'époque comme étant le monde un peu pur et parfait de la religion et de la foi en Dieu, quoi, en Yahvé.
Hein, comme Nathanaël, de Nazareth, que peut-il venir le Messie ne peut pas sortir de Nazareth. Il va sortir de
un trou. C'est un trou. Qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de
ce endroit-là ? Oui, donc Nazareth, c'est un lieu complètement inconnu des Écritures, si vous voulez. On en fait référence qu'au moment, effectivement, où Jésus s'y installe, si on peut dire, avec Marie et Joseph. Et les disciples seront remarqués à leur origine galiléenne, si vous voulez.
C'est le Galiléen
avec l'accent, on pourrait dire l'accent typique de ce lieu. De dire, bon, ce ne sont que des Galiléens, c'est-à-dire c'est des gens un peu frustes, sans culture, etc. Comme d'ailleurs cela sera dit explicitement au début du livre des Actes des Apôtres. Hein, lorsque Pierre et Jean vont comparaître devant le Sanhédrin après la guérison du boiteux de la Belle Porte, on va dire, mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à lever un paralytique que personne n'a jamais guéri, alors que ce sont des Galiléens, ça s'entend à leur accent, et qu'ils sont absolument sans culture, sans aucune instruction, etc.
Et ils sortent poisson.
Voilà, donc ça veut dire que l'Évangile et après les Actes des Apôtres se plaisent à dire que c'est de cette de ces populations hétérogènes, on pourrait dire de s'en mêler un peu sur le plan religieux, que va surgir la véritable révélation de Dieu en Jésus-Christ et après évidemment son Église. Quoi.
Je vous cite encore, d'emblée, Jésus s'affirme dans la main du Père. Telle est son origine qui façonne son identité, cela est déroutant. Tant pour les tenants du dogme religieux que pour nombre de ses contemporains anonymes. Autant Jésus va s'affirmer au long de sa vie publique, autant il va demeurer d'une certaine façon insaisissable, et particulièrement dans les situations où la mort rôde, mais il est essentiel que ce domaine soit abordé et finalement vaincu. Cela n'ira pas sans bouleversement pour ceux qui sont appelés à le suivre précisément jusqu'au bout. Alors là, on a un élément nouveau quand même, c'est la mort.
Voilà, il faut bien la considérer, si vous voulez, dans l'ordre de notre existence humaine.
Oui.
Et si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout de, on pourrait dire, de l'existence humaine dans sa personnalité d'homme, de chair et de sang, on pourrait dire, où est notre salut dans cette affaire ? Voilà. Et donc, Jésus entraîne ses disciples à considérer la question de la mort dans leur propre cheminement.
Et en même temps, ça pourrait être une fête puisqu'on est sûr de ressusciter, mais en même temps, c'est à la fois ça pourrait être une fête, mais elle est tragique là, et elle est tragique dans les évangiles.
Et elle est tragique.
Même à la mort de Lazare.
De toute façon, elle est tragique et Jésus n'est pas indifférent à la mort. On le voit bien avec la fille de Jaïr, avec, comme vous le citez justement, son ami Lazare, etc. Donc Jésus est ému par la question de la mort et Jésus ne va pas affronter sa propre mort à titre d'humain sans tremblement, sans angoisse, sans suer, comme on le décrit très bien dans les récits de la Passion et en particulier à Gethsémani. Et donc, les évangiles ne font pas mystère de la dérobade de ses disciples face à cette question qui, de fait, nous est posée à nous tous aujourd'hui.
Je vous cite encore Patrice de La Salle dans votre livre « Dieu l'étranger » aux éditions jésuites. C'est la fin, mais il faut dire que elle m'a rendu quoi. C'était hier soir. Je lisais votre livre, elle est terminée, et je me suis dit, mais on m'a jamais dit ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre, enfin, je dirais, qui n'est pas un livre de paraphrase des évangiles ou de la Bible comme on en reçoit si souvent ici, mais c'est vraiment un livre de réflexion et d'une lumière à travers la voix qu'il nous propose. Un amour qui, pour être authentique, doit donc tendre à l'universel et non se resserrer sur le cercle toujours trop étroit des familiers. C'est la mission des croyants, mais c'est d'abord, si l'on peut dire, la vocation de l'homme, qui ne se perd jamais tant que lorsqu'il se replie sur lui-même et déploie en revanche toute l'ambition de fécondité divine que lorsqu'il s'ouvre à l'inconnu toujours étrange rencontré sur sa route. Et cet inconnu toujours étrange, c'est peut-être Dieu.
Oui, ben c'est ce que j'essaye aussi de montrer, si vous voulez, dans la période de la mission donc des premières communautés chrétiennes, et en particulier à travers, évidemment, les deux exemples majeurs que sont Pierre et Paul, voilà, qui sont assez parallèles, tels que décrits dans les Actes des Apôtres, et où, effectivement, c'est l'ouverture à l'autre, alors avec des petits tas, des grands tas, tout ce que vous voulez, l'ouverture à tout ce qui nous est, d'une certaine manière, un peu étranger
tout
que se dessine quelque chose de l'ordre de la Trinité. Voilà, hein, pour pas simplement à titre sociologique, si vous voulez, pas simplement dans la rencontre caritative des peuples ou l'accueil de l'étranger ou de l'immigré, tel qu'on s'est débattu en particulier dans notre pays en ce moment, même si tout ça est évidemment très honorable, mais qu'il y a quelque chose de fondamental dans la révélation trinitaire entre le Père et le Fils et le Père dans l'esprit, dans la rencontre de l'homme avec celui, celle qui lui est a priori étranger.
Dit comme ça, c'est presque ontologique.
Mais c'est-à-dire que, et je crois que, voilà, je crois que notre Église, si vous voulez, il faudrait qu'elle s'ouvre sur cette dimension de l'universalité en son fond. Mais en son fond, et pas simplement dans l'expansion géographique qui est pratiquement réalisée au XXIe siècle, où l'Église catholique en particulier, mais aussi ça vaut pour les protestants, les orthodoxes, chrétiens, voilà, sont répartis un peu sur toute la surface de la Terre. Mais en son fond, voilà, je crois que les récits bibliques à cet égard, et en particulier dans le Nouveau Testament, montrent bien ce dépouillement de la particularité, sans y renoncer par ailleurs.
Bien sûr.
Mais ce dépouillement de la particularité pour s'ouvrir à cette universalité dans laquelle je rencontre effectivement ce Dieu qui est mon origine et mon accomplissement.
Et comme vous l'avez très bien rappelé en début d'émission, ça n'a rien ni de sociologique ni de psychologique, mais c'est vraiment théologique et ça participe de notre dimension d'homme que ce travail en son fond, comme vous le dites, sur l'ouverture à l'étranger, de ce qui nous est étranger. Jean-François Rode, avant que vous parliez...
Je trouve que ça rejoint aussi beaucoup, je pense, l'expérience spirituelle de beaucoup, où il y a, en fait, on a toujours peut-être une tension un peu dans notre vie spirituelle entre la familiarité avec Dieu et son étrangèreté. Enfin, l'équilibre n'est pas si facile que ça à trouver entre le fait de pouvoir s'adresser à Dieu en confiance et le fait aussi de laisser toujours Dieu être différent de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, de se laisser surprendre. Et donc, je trouve que votre texte est un parcours très, très, très formidablement clair de parcours biblique, et rejoint aussi vraiment l'expérience de la prière. Peut-être dans notre Père, on commence par dire notre Père, et on ajoute aussitôt qui est aux cieux. On a tout de suite cette dimension, à la fois il est absolument proche, et il n'est pas non plus sous notre emprise, sous notre main.
Oui, tout à fait. Et ceci n'est pas, si vous voulez, pour essayer de brimer l'homme, ou encore une fois, ou pour essayer de mettre une mainmise de domination sur l'homme, si vous voulez. Mais c'est fait pour le, un peu comme Abraham, d'aller de campement en campement, pour l'enrichir, en quelque sorte, pour l'enrichir de ses potentialités que lui-même, souvent, ignore. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi encore toute une série de chapitres à écrire sur, en particulier, la découverte de l'étranger que nous sommes intérieurement à nous-mêmes, si vous voulez. On le voit très bien par l'exemple de Saint Ignace de Loyola, par exemple, qui est relativement documenté, effectivement, à travers ce qu'on appelle le récit, et où on voit l'avènement d'un autre homme qui, pourtant, est resté un peu le même dans ses acceptions humaines et sociologiques, d'ailleurs, et qui devient quelqu'un de tout à fait autre sur le registre de la relation à Dieu.
Donc, Patrice Vassal, on peut imaginer un volume 2, après Dieu l'étranger, parcours biblique, Dieu l'étranger, parcours spirituel, qui reprendra un peu l'expérience que vous avez à l'île Maurice, où vous vivez, d'accompagner de façon ignatienne un peu tous les...
Oui, ça se décline. Enfin, j'entends bien aussi ce que dit Jean-François Rhodes, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se déploie dans tous les compartiments de notre existence, de relations humaines, de dimensions spirituelles, d'implications ecclésiales, encore une fois, de compréhension théologique. Voilà, c'est tout ça, si vous voulez, qui s'ouvre voilà, dans une vue, je dirais, croyante, positive, et non pas de dépression chronique, comme malheureusement on le ressasse un peu dans notre société aujourd'hui.
On a vraiment envie de vous suivre, en tout cas de vous lire. Merci Patrice de La Salle. Je rappelle votre nouvel ouvrage, Dieu l'étranger, parcours biblique aux éditions jésuites, que nous vous recommandons vraiment chaudement. Merci,
oui, vraiment.
Merci Jean-François Rhodes, merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, et François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au théâtre pour un panorama sur l'actualité avec vos chroniqueurs familiers. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.